Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alain Carcenti, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes économiste, chercheur au CIRAD depuis 1992, et vos recherches portent sur les instruments économiques des politiques publiques en lien avec les forêts, le foncier et le développement, surtout en Afrique centrale. Alors, vous avez travaillé à la loi européenne sur la déforestation importée, vous avez suivi la COP16 de Cali, et tout cela en vue de votre objectif principal, réduire la déforestation. Alors, la discussion sur les crédits biodiversité vous ont finalement permis de rappeler tout ce qu'on avait vécu sur les fameux crédits carbone. Et cette expérience nous a permis, comme à vous, de gagner du temps. Alors, je pense qu'on ne reproduira pas les erreurs passées. Et avant d'évoquer tout cela, parlez-nous un petit peu du CIRAD. Vous y êtes chercheur. Cela nous expliquera peut-être pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui.
Alors le CIRAD, c'est un organisme public de recherche appliquée, de recherche agronomique pour le développement. Recherche agronomique, c'est au sens large. Hein. En fait, on travaille en coopération, c'est-à-dire que nous travaillons pour le développement des pays du Sud qui sont nos partenaires. Donc le CIRAD, c'est une institution très montpelliéraine qui a aujourd'hui d'avoir un personnel de 1700 personnes au CIRAD, dont à peu près 800 chercheurs.
Elle est née à Montpellier.
Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60, un certain nombre qu'on appelait d'instituts tropicaux. Instituts tropicaux qui étaient dédiés, qui étaient indépendants, dédiés soit au cacao, soit au bois, soit à l'huile de palme, ou des choses comme ça, au palmier à huile. Et en 1984, hein, oui, puisqu'on va se fêter les 60 ans, les 40 ans, pardon, du CIRAD, le gouvernement français a décidé de fusionner ces instituts, et donc ça a donné le CIRAD.
Voilà. Alors, il y a eu aussi un autre basculement. C'est-à-dire qu'au départ, le CIRAD était essentiellement consacré finalement à la production. Et puis ensuite...
Alors oui, le CIRAD a suivi l'évolution finalement de la conscience internationale. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait de produire et de produire d'ailleurs au bénéfice généralement des entreprises. Les instituts tropicaux étaient très liés aux grandes entreprises françaises, coloniales ou postcoloniales, de Michelin pour l'EVA et autres, etc. Et puis, peu à peu, bon, c'est devenu d'abord du développement, donc de produire pour nourrir la planète. C'est toujours le cas, mais bien évidemment, la question de l'environnement, à partir du début des années 90, a commencé à devenir un thème tout à fait important. Donc maintenant, on parle de développement durable, avec toute l'ambiguïté qui entoure cette notion, parce qu'on ne sait pas très bien effectivement le définir, mais en tout cas, ça permet de dire un certain nombre de choses. Et oui, la problématique environnementale sur la question du climat, de la biodiversité, prend de plus en plus de place au CIRAD, bien sûr.
Et vous avez l'impression réellement que ça se passe, hein, que ce n'est pas simplement dans les textes?
Non, ça se passe vraiment. Et en plus, moi, j'arrive en fin de carrière, mais les jeunes chercheurs sont extrêmement motivés par cette thématique. Au point que, justement, à un moment donné, toute la question, c'est que on doit essayer de trouver des compromis entre des questions de production et des questions, effectivement, par exemple, de respect de la biodiversité. À un moment donné, il faut y trouver les moyens de trouver des compromis acceptables par nos partenaires, y compris, parce que ça n'a pas tellement de sens de dire il faut simplement, par exemple, mettre les forêts sous cloche, alors que ça représente des des emplois, des taxes pour les pays d'origine. Donc il faut trouver des compromis et des moyens de s'adresser à ces personnes.
Alors vous dites, j'arrive en fin de carrière et les jeunes sont sensibles à cette question. Mais est-ce qu'ils ont aussi une vision finalement du parcours qui a été mené? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui traiter des problèmes qui s'imposent à nous sans avoir cette connaissance historique?
Eh bien, vous mettez le doigt sur un vrai problème, c'est-à-dire que, à mon avis, il est extrêmement important de comprendre d'où on vient, de comprendre les processus, notamment de négociation, qui ont rythmé finalement cette évolution. En gros, on ne peut pas faire table rase, disons, d'un certain nombre de choses, même si on le voulait, même si pour une société idéale, on pourrait dire à quoi ça rime effectivement de continuer à produire, de l'huile de palme ou du soja. Alors bien sûr, il y a toute une série de critiques à faire, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comment est-ce qu'on est arrivé à un long cheminement et comment on a besoin encore finalement de cheminer, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour et on ne peut pas renverser la table très rapidement comme ça, même si on le voulait.
Alors on va poursuivre d'ailleurs dans ce questionnement, puisque finalement la forêt dans le monde, bon, c'est un énorme sujet. Nous avons tous entendu parler de la déforestation. Bon, bien sûr, on demande tous que ça s'arrête. Et puis on a tous l'impression que, boum, il suffit d'un petit coup de baguette magique et puis ça va s'arrêter, la déforestation. Alors, justement, par rapport à tout ça, quel est un peu votre sentiment et comment vous analysez nos méconnaissances, finalement, et comment on pourrait y remédier?
Oui, ce sont des problèmes de représentation. C'est un très bon exemple, cette question de la déforestation. J'ai entendu de grands scientifiques dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas la déforestation? Bon, et évidemment, on est un peu désarmé devant une question pareille, parce que lorsqu'on travaille vraiment sur le terrain avec des paysans, avec des entreprises dans les pays en développement, parce que la déforestation est un problème de pays en développement, hein, et c'est là qu'on a une conversion des forêts à des espaces artificialisés, généralement de l'agriculture ou de l'élevage. Et donc, on n'arrête pas la déforestation comme on fermerait une centrale à charbon, tout simplement. Parce que derrière, vous avez énormément de personnes, des dizaines, voire des centaines de millions de paysans, souvent des petits paysans, qui sont obligés, de par la manière dont leurs pratiques agricoles, de par des questions foncières, de par le fait qu'ils ont de nombreux enfants, qu'ils ont effectivement, et donc qu'il faut leur léguer quelque chose et puis il faut nourrir, qui sont poussés au déboisement. C'est tout, c'est pas une méchanceté, ils sont dans des systèmes de contraintes qui font qu'aujourd'hui ils n'ont pas de choix. Alors il y a aussi des grandes entreprises, c'est tout à fait clair, et là il y a peut-être plus de choses à faire plus rapidement avec ce type de problème, mais il faut savoir quand même...
Est-ce que vous pensez que c'est plus facile?
Alors, ça peut être plus facile parce que, au fond, le capital est mobile, c'est-à-dire qu'au fond, une grande entreprise à qui on ferme un espace pour laquelle on met une interdiction, par exemple, de faire un certain nombre de choses, peut se reconvertir plus facilement parce qu'elle a, du capital humain, elle a du capital, etc. Donc, elle peut s'adapter. À la limite, les grandes entreprises sont capables de s'adapter à un certain nombre de choses de manière beaucoup plus facile qu'un paysan africain ou qu'un paysan cambodgien qui,
Ça sera au détriment quand même de ces paysans.
Pas forcément. Non, pas forcément. Par exemple, on parle beaucoup, notamment dans certaines filières comme le cacao. On va parler du règlement sur la déforestation, justement. On exige maintenant un certain nombre de garanties. Le marché européen demande, ça va devenir une loi. Ce n'était pas une loi pour l'instant, c'était des pressions des consommateurs qui demandaient du cacao sans déforestation et avec un certain nombre, disons, de qualités, en tout cas du point de vue pesticides, etc. Alors, vous avez de très grandes sociétés qui ont décidé de tout simplement d'encadrer dans des programmes de durabilité un certain nombre de paysans qui produisent du cacao, qui produisent du café, etc. Alors bien sûr, ça se fait au détriment des autres. Tout le monde n'est pas dans ces programmes de durabilité.
Ça se fait plutôt au détriment des autres sociétés plutôt que détriment même des producteurs.
Alors ça se fait... Non, ça se fait... je veux dire, quand vous décidez en Côte d'Ivoire, par exemple, d'avoir 5 000 paysans qui sont encadrés directement, auxquels elle vous fournissait de l'assistance technique, de la formation, des semences, des choses comme ça. Donc vous assurez la traçabilité, donc vous assurez qu'une certaine production va être garantie auprès des consommateurs. Le problème, c'est que tout le monde ne rentre pas dans ces systèmes de durabilité. Il y a une minorité de paysans et de planteurs qui rentrent dans ce système. Donc les entreprises savent s'adapter pour elles, mais ça ne résout pas le problème, parce que ça laisse une très grande partie des paysans pauvres sur le bord du chemin.
Alors racontez-nous un petit peu, vous travaillez en Afrique centrale, comment vous menez votre travail de recherche? À quoi il sert pour nous, pour les Africains sur place? Comment est-ce que vous faites pour justement concilier tous ces problèmes qu'on vient un petit peu de toucher du doigt, mais qui sont finalement très spécifiques et difficilement partageables?
Alors, vous avez dit en introduction que je travaillais sur les instruments des politiques publiques. Donc effectivement, les politiques publiques, ça veut dire des ministères, des décideurs, etc. Ça, c'est vrai que c'est fondamentalement mon objectif. C'est de pouvoir contribuer à l'évolution des politiques publiques qui ont des impacts sur le climat, la biodiversité. Mais pour le faire, dans une carrière qui est maintenant assez longue, j'ai toujours travaillé à plusieurs niveaux. Et j'ai fait beaucoup de terrain, peut-être moins que d'autres, mais beaucoup de terrain, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Congo, à la fois pour voir des paysans, disons, avec des terrains des fois de plusieurs semaines, hein, à Madagascar par exemple, effectivement. Donc ce qui permet de comprendre effectivement quelles sont les conditions dans lesquelles les gens produisent, vivent et quelles sont leurs contraintes, ça me paraît très très important, mais également des entreprises, par exemple... les entreprises qui produisent du bois, vous en avez en Afrique centrale. Et donc, il est très important là aussi de comprendre quelle est la perspective des entreprises qui font de l'exploitation forestière, quelles sont également leurs contraintes, parce que les entreprises ont également des contraintes, même si on en a peut-être moins que des paysans, bien sûr, et quel est leur point de vue. Et à partir de là, se construit tout un travail qui, pour moi, a été un travail entre, disons, du travail de recherche, c'est-à-dire d'analyser des statistiques, de faire des comptes rendus de terrain ou autre, de transformer ça finalement en chercheur en tant que production scientifique, donc en articles, en conférences, etc. Et puis, à produire un dernier type effectivement de produits qui va être effectivement la manière dont on peut faire des recommandations politiques que les gouvernements peuvent prendre ou pas. Ça on n'est jamais sûr. Mais donc, c'est toute la question, c'est de pouvoir arriver à les convaincre, de convaincre que c'est dans leur intérêt de faire ça également.
Gagner des terres pour ces paysans, bien sûr, il faut déforester. Et la plupart du temps, il faut brûler. Et quand la forêt brûle, elle émet du CO2. Et c'est ainsi que le travail des producteurs, nous passons à la question du climat. Alors, les émissions de CO2 liées à la déforestation sont reparties à la hausse en 2024, après une décennie de baisse, en tout cas d'après le rapport du Global Carbon Budget. Et comme nous devons faire reculer nos émissions, nous devons impérativement lutter contre la déforestation et le brûlage. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Alors, c'est là qu'on rejoint finalement là où vous en êtes aujourd'hui, oui. C'est-à-dire finalement la mise en œuvre de finances. Alors, c'est un peu compliqué, donc on va essayer de le faire le plus simplement possible.
Non, mais si vous voulez, j'ai tendance à dire que la déforestation, ça se passe dans les pays du Sud. 90% de la déforestation, elle est à l'agriculture. Et sur tous les continents, surtout en Afrique, mais également dans les autres continents américains, asiatiques, la déforestation est majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement le fait de petits paysans. Ces petits paysans, ils produisent...
Ah, c'est pas le cas en Amazonie, par exemple.
Ah, c'est le cas assez largement. C'est le cas assez largement. Ces petits paysans...
Pourtant, on nous montre toujours des espèces de grands magnats financiers qui gagnent des terres illégalement, d'ailleurs, la plupart du temps.
On peut communiquer plus facilement. L'Amérique du Sud, effectivement, le Brésil, est un des endroits où on est pratiquement sans doute à moitié-moitié, disons. Mais vous avez des grands éleveurs, hein, puisque c'est le grand élevage extensif qui est le principal moteur de la déforestation. Vous avez le soja, qui se passe de moins en moins dans l'Amazonie, de plus en plus dans les cerrados, qui sont des terres non boisées souvent. Des fois, elles sont boisées, mais souvent non boisées, mais souvent qui ne correspondent pas à la définition de la forêt et qui, effectivement, sont les endroits où se fait maintenant, aujourd'hui, le soja. Voilà. Mais ces petits producteurs, donc sur tous les continents, c'est pratiquement, au niveau global, c'est quand même une majorité. Ces petits producteurs, ce n'est pas seulement de l'agriculture de subsistance, c'est simplement, ils produisent pour le marché. Par exemple, les producteurs de café éthiopiens produisent pour l'exportation. Donc, ce sont des productions marchandes, mais de la petite production marchande, si vous voulez. Alors, le problème, c'est que j'ai tendance à dire que, évidemment, essayer de résoudre le problème de la déforestation, ça suppose de traiter plusieurs problèmes à la fois. Je dirais la première chose, c'est qu'il y a une question quand même importante, c'est une question de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que si on veut effectivement réduire la déforestation, il faut parler avec les pays du Sud sur le thème notamment de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. C'est très important parce que le premier argument...
Donc continuer à nourrir, en fait.
Il faut continuer à nourrir, donc il faut continuer à produire. Mais il faut produire dans d'autres conditions. Et les autres conditions, ça veut dire de changer, transformer les pratiques agricoles pour faire ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle au CIRAD, et à mon avis à juste titre, de l'intensification écologique. C'est-à-dire qu'il faut produire plus pour des populations, effectivement, qui est une population qui augmente démographiquement, hein, notamment dans les pays du Sud pour l'instant. Et il faut le faire de manière écologique, c'est-à-dire qu'il faut le faire sans détruire la forêt et sans polluer les sols, l'eau, etc.
Ça veut pas dire doit être difficile parce qu'on n'y arrive pas en France. En France, on essaie de faire à peu près la même chose auprès de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire on essaye de faire en sorte qu'elle soit capable de produire parce qu'on a besoin de sa production, mais en même temps de protéger nos sols, notre eau, etc. Donc on est sur cette phase, même chez nous. Donc comment on peut être à la fois incapable de résoudre le problème chez soi et d'aller transmettre le message ailleurs,
hein? Alors nous, on sait le faire dans les pays européens et dans les pays occidentaux. Disons qu'il y a l'agriculture biologique, mais il y a également simplement l'agriculture raisonnée, etc. Simplement, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est là qu'on arrive à la partie économique et financière. C'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes d'incitation, si vous voulez, les systèmes font que on gagne plus d'argent en faisant de la production industrielle, en utilisant énormément de pesticides et d'intrants de synthèse, qu'en faisant de l'agriculture raisonnée. Parce que le bio est une partie de la réponse, mais je ne dirais pas forcément ça. Si vous voulez, en Afrique, par exemple, les gens n'utilisent quasiment pas d'engrais, donc ils en utilisent un petit peu d'engrais azoté.
Mais quand on voit les sécheresses actuelles...
Oui, enfin bon, si vous voulez, il y a effectivement des questions de proportion entre les paysans, entre les céréaliers européens qui utilisent massivement des pesticides et des engrais, et les paysans africains qui n'en utilisent pas. Et donc, il est obligé de déposer de la forêt pour retrouver de la fertilité.
Puis des sols, la différence de sol aussi.
Et la différence de sol. Les sols, par exemple, africains, manquent cruellement de phosphore. Et donc, on a besoin de toute façon d'apport d'intrants, de synthèse, etc. pour rétablir l'équilibre minéral des sols. Donc, c'est là qu'on retrouve le problème, disons, des systèmes économiques. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les transformations, le passage à l'intensification écologique ou à l'agroécologie, si vous voulez, soit plus rentable. Donc ça suppose de l'argent. Donc ça suppose de l'argent à la fois pour investir, il faut former des gens. Il y a des choses à faire sur le foncier, par exemple l'insécurité foncière ou le manque de clarté des droits fonciers est un problème absolument majeur.
Alors, on s'arrête deux secondes là-dessus.
On peut s'arrêter deux secondes là-dessus.
Le foncier, tout le monde ne sait pas que le foncier n'existe pas forcément en Afrique. Enfin, je veux dire que les gens n'ont pas forcément la propriété des sols qu'ils cultivent.
Oui, disons que ils n'ont pas la propriété des sols qu'ils cultivent très souvent. Alors, ils ont la possession très souvent, c'est-à-dire qu'au fond, souvent les gens cultivent de manière traditionnelle, mais il y a toujours le risque que l'État attribue à un investisseur étranger.
À Total, par exemple.
Ça peut être à Total, ça peut être à des firmes sud-coréennes, chinoises, etc. C'est tout à fait possible. Généralement, quand même, si vous voulez, l'accaparement des terres, qui est un vrai sujet, même s'il a été un peu exagéré dans les années, enfin il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu que c'était un peu moins important que ce qu'on imaginait, ça se fait avec des capitaux locaux, c'est-à-dire qu'au fond ce sont souvent les bourgeoisies nationales, les fonctionnaires effectivement, parfois avec des capitaux étrangers qui arrivent à s'accaparer les terres pour eux. Bon, ça c'est une parenthèse, mais sinon sur la question du foncier, c'est tout simplement que les gens n'ont pas de titre de propriété, les cadastres sont pratiquement inexistants. Et que donc, on est surtout, le dernier problème, c'est que le mélange des systèmes coutumiers et des systèmes modernes font qu'il y a une énorme confusion sur une question très simple, à qui appartient la terre et qui a quel droit. Et souvent, sur une même parcelle de terre, sur une même terre, il y a plusieurs ayants droit. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des droits différents et parfois des droits contestés. Et donc, si vous voulez savoir effectivement à qui attribuer la terre, à qui donner un titre foncier, la question c'est quel ayant droit vous choisissez parmi des fois les deux ou trois prétendants.
Alors, c'est un peu cette question qui a bloqué une idée que vous aviez avec plusieurs autres chercheurs, qui était extrêmement intéressante, qui était de rendre finalement, pour ne pas culpabiliser tout le temps les gens du Sud, de rendre aussi l'Europe responsable de ce qu'elle faisait, des 10% de ses responsabilités en termes de déforestation, via la déforestation importée. Alors, c'était une idée, bon, rappelez-nous en gros de quoi il s'agissait, mais on ne va pas rentrer dans le détail.
Non, mais simplement pour rebondir sur cette question, la déforestation c'est une affaire disons, qui se passe dans les pays du Sud. C'est une affaire de pratiques de production qui sont devenues inadaptées. Elles l'étaient dans le temps, c'était à peu près durable, l'agriculture, ce qu'on appelle itinérante sur brûlis, quand il n'y avait pas trop de monde et quand l'espace n'était pas trop fermé. Aujourd'hui, avec les démographies qu'on a, ce n'est plus possible. Bon. Les pratiques agricoles, le foncier, la démographie aussi, l'aménagement du territoire, enfin tout ce qui se passe dans les pays du Sud, ça c'est une chose, mais il y a également la demande. Donc effectivement, qu'est-ce qui tire la déforestation? C'est également la demande. Bon, même si ce sont des petits producteurs, quand on consomme du chocolat, quand on consomme du café, quand on consomme effectivement du bois ou de l'huile de palme, etc., on crée de la demande, donc on fait un appel d'air pour toute une série d'intérêts économiques qui vont produire de la déforestation. Donc il faut traiter à la fois l'offre et la demande. Et la demande, c'est cette question de la loi sur la déforestation.
Alors, ce travail que vous aviez fait et qui a été remarquable.
Que nous avions fait. Enfin,
oui, que vous avez fait.
Qu'un élément du puzzle.
Mais que vous avez fait, donc, avec plusieurs autres chercheurs, était quand même une idée formidable. Alors, aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que tout le monde a donné un peu de la voix. Chaque responsable de secteur, cacao, café, bois, etc., a voulu défendre son point de vue. Et on a une espèce de texte que certains ont qualifié de véritable usine à gaz. Alors, aujourd'hui, l'Europe l'a bloquée. Momentanément. Est-ce que vous croyez... Alors, deux questions. Est-ce qu'elle réapparaîtra? Est-ce que ce débat va se poursuivre, malgré tout, malgré cet arrêt? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut changer?
Oui, alors, effectivement, lorsqu'on pense demande, on sait qu'il y a une partie de la déforestation qui vient du commerce international, donc de la demande des consommateurs. Ça représente 20 à 25% à peu près, d'après les chiffres qu'on a, de la déforestation mondiale qui est associée aux exportations, c'est-à-dire au commerce international. Bon. Là-dessus, l'Union européenne consomme une partie, effectivement, de ce qui passe dans le commerce international. Donc, à partir de là, on doit faire notre part. C'est quasiment une question éthique. On doit faire notre part de la lutte contre la déforestation, même si on sait que le problème, c'est que si on arrête d'importer un certain nombre de productions qui sont liées à la déforestation, ça ne va pas forcément arrêter la déforestation, puisqu'on a des marchés chinois, des marchés indiens, des marchés du Qatar, enfin de à peu près tous les pays émergents, qui sont justement émergents, donc en pleine croissance, qui seront très heureux de pouvoir acheter à moindre prix, évidemment, le cacao que nous ne faisons plus rentrer, ou l'huile de palme que nous ne faisons plus rentrer, etc. Bon, la seule filière où on peut peser un petit peu, c'est le cacao, parce que
l'Europe... Donc en fait, ce que vous voulez nous dire là, c'est que si c'est pas nous, ça sera un autre.
Oui, très largement, c'est-à-dire que ça c'est la première chose à dire quand même, parce que je crois qu'il faut bien séparer les questions d'efficacité et les questions, je dirais, presque éthiques et morales. Éthiquement, on doit faire notre part, donc de toute façon, ça me paraît indiscutable. Maintenant, faut pas se bercer d'illusions, l'Europe pèse de moins en moins dans les importations, etc. Nous avons aujourd'hui des pays qui importent énormément, donc de toute façon, il y aura une redistribution des flux commerciaux pour ce que nous ne ferons pas rentrer. Alors maintenant, vous avez parlé de déforestation importée. C'est comme ça qu'on raisonnait, effectivement, il y a presque maintenant...
Il y a deux ans, trois ans.
Oui, 3-4 ans, etc. Et puis,
nous, on vous avait interviewé au congrès mondial de l'UICN.
Oui, c'est vrai, on en parlait comme ça.
Vous étiez en train de le présenter.
On parlait de la stratégie, effectivement, française sur la
déforestation.
La SNDI, la Stratégie Nationale Française sur la Déforestation Importée. Et quand ça s'est passé au niveau de l'Europe, effectivement, l'Europe souhaitant, étant une zone, se conformer aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, eh bien, très vite, il est apparu que sinon on demandait des choses, des règles aux autres, sur, par exemple, la traçabilité, sur des garanties, il fallait absolument que ce qu'on demande aux autres, on se l'applique à nous-mêmes. Donc, ce n'est plus une loi sur la déforestation importée, mais c'est une loi sur la déforestation tout court. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, enfin, il y a deux types de problèmes, mais ce qui s'est passé notamment, c'est que beaucoup de pays européens, beaucoup d'associations professionnelles sur le bois, sur la viande bovine, effectivement, les Autrichiens, par exemple, les Suédois, etc., mais également les Français pour le bois, au début pensaient que c'était comme vous, que c'était la déforestation importée, donc ils se disaient, c'est pas un problème, ça ne nous concerne pas. Et puis très vite, effectivement, ils se sont aperçus qu'en fait, ça les concernait également pour le bois, pour le soja et surtout pour le bœuf. Et donc, à partir de là, ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir les mêmes exigences de traçabilité, qui allaient effectivement rajouter des couches. Vous savez qu'aujourd'hui, on discute beaucoup de la surenchère des normes, de la bureaucratie, etc. Donc, la traçabilité à la parcelle pour un bœuf qui peut-être est né quelque part, engraissé ailleurs et abattu encore dans un troisième lieu, ça va poser... Enfin, tout est faisable, mais ça va consommer du temps et de l'argent. Donc, effectivement, à partir de là, il y a eu une révolte, notamment de nombre de pays européens, qui ont dit qu'il faut réviser cette affaire. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, on s'est aperçu aussi que ce que demande l'Europe, c'est une traçabilité à la parcelle. Et là, on a quelques filières, pas toutes les filières. Celles de, notamment où il y a ces millions de petits paysans, voire ces dizaines de millions de petits paysans. Le café, le cacao, l'huile de palme. Eh bien, on s'est aperçu effectivement qu'on n'arrivera pratiquement pas, enfin ça prendra des dizaines d'années, avant d'arriver à avoir une traçabilité à la parcelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de cadastre, précisément. Le cacao ou le café passe par plusieurs intermédiaires avant d'arriver effectivement sur le marché. Que les états civils ne sont pas stabilisés, on ne sait même pas à qui on a affaire. Et que donc, c'est quelque chose qui risque d'exclure du marché européen des dizaines de millions de petits paysans. Donc, il y a un enjeu social important.
Alors, est-ce qu'on va reprendre ce débat ? Enfin, énormément d'ONG se sont plaintes parce qu'on l'avait abandonné et que c'est vrai que c'était important. Est-ce que vous croyez qu'on va continuer à travailler là-dessus et qu'on va reprendre ce débat ?
Oui, je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. Disons que beaucoup d'ONG se sont plaintes, mais au fond, quand on leur dit « mais vous savez que ça va exclure des millions de petits paysans », normalement, ils devraient avoir une fibre sociale un peu plus marquée. Mais il y a une tendance chez certaines ONG de dire que plus c'est écologique, mieux c'est, quel que soit, même si ce n'est pas applicable, ce n'est pas grave, etc. C'est juste,
chacun défend son truc.
Chacun défend son truc. Alors, il y a des possibilités d'amélioration. Enfin, je ne vais pas aller...
On arrive en fin d'émission. Et je voudrais Alors, je sais qu'on a encore... J'avais encore un millier de questions à vous poser sur, effectivement, les débats qui ont eu lieu à Casli, etc. Les choix qui ont été faits sur la biodiversité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, tant pis. Mais abordons en deux minutes, puisque c'est ce qui nous reste à peu près, pour terminer, la question du Mercosur. Donc, on est en pleine actualité. On sait demain que, bien sûr, si on signe ces accords du Mercosur, les paysans vont se plaindre, vont être directement menacés, mais aussi qu'on va accélérer cette déforestation parce qu'il faudra produire encore plus, bien sûr, puisqu'on exportera davantage. Donc, est-ce que vous croyez que l'Europe, ma question c'est, est-ce que l'Europe va casser le Mercosur tel qu'il est actuellement et qui pourrait être éliminé simplement par le droit de veto de la France, ou bien est-ce qu'on va être
La France n'a pas de droit de veto, il faut qu'elle ait une majorité qualifiée à 55%.
Maintenant, il faut
donc la France ne peut pas bloquer le processus si effectivement... Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas d'une chose, c'est que si la loi sur la déforestation s'applique justement, même si le Mercosur est signé, il faudra justement, par exemple, que pour le bœuf et le poulet, il y ait la traçabilité à la parcelle. Or, le seul pays d'Amérique du Sud qui a un système de traçabilité nationale qui correspond à peu près à ce que demandent les Européens, c'est l'Uruguay. Mais le Brésil n'en a pas. il a une loi, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le contingent de 99 000 tonnes de bœuf sera peut-être admis, mais si les producteurs ne sont pas capables de faire la traçabilité à la parcelle, ça ne pourra pas rentrer à cause de la loi sur la déforestation, si elle est votée.
Merci Alain, et je pense que nous aurons l'occasion de nous retourner, de nous retrouver.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.